Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Écoute, Ben, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale.
Antoine Robitaille.
Il y en a un qui m'a écrit hier, il m'a dit que j'étais nazi. Ouais,
Antoine a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime.
Philippe Vincent Foisy.
Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi.
La rencontre.
Offenser qu'on ose poser une question et remettre en question
ces décisions. Écoute, j'en venais
plus. Rien dire, mais on peut plus rien dire.
On peut plus rien dire. Surtout dans la rencontre.
Robitaille.
Antoine Robitaille, Philippe Vincent Foisy, bonjour.
Bien le bonjour.
Bonjour.
Merci, merci d'être là. Alors, ben d'abord, Antoine achève son marathon. Pas l'air trop fatigué, c'est bien.
Non, non, c'est terminé, c'est ça. Je suis de retour dans mon studio, pas mal excité. J'ai voulu faire une entrevue tantôt, il n'y a rien qui fonctionnait, je sais pas, tout avait été... Heureusement, il y a le magicien Louis-Sacha Constantino qui m'a tout rebranché ça. Attends pour faire une entrevue, imagine-toi donc, Guillaume, avec Patrick Taillon, le constitutionnaliste, avec qui on a discuté de cette possibilité bien réelle ce soir, qu'il y ait égalité dans les groupes aspirant à former l'opposition officielle.
Et donc, ça va être intéressant parce que l'Assemblée, comment on dit ça dans le Code moral, l'Assemblée est souveraine. Alors, l'Assemblée se donne de ses propres règles. Alors, peut-être qu'ils vont devoir se dire, qui va être là? Parce qu'ils en ont rajouté, là. Il y avait l'opposition officielle, le premier groupe, le deuxième groupe d'opposition, le troisième groupe d'opposition. On va voir ça. Et toi, Philippe, mais avant, messieurs, là, que l'on parle, qui va gagner, qui va perdre, on va se garder de la marge, là, pour ce
on
soir.
On va laisser ça aux électeurs. On va laisser ça aux électeurs. Ils décideront pour nous autres. Nous autres, on n'a plus rien à dire là-dessus.
C'est ça. Alors là, on va les laisser faire. Mais la question, c'est est-ce qu'ils vont aller voter? Et moi, ça m'inquiète toujours. Je disais un peu plus tôt dans l'émission, quand je vivais à l'étranger, j'étais tellement fier qu'au référendum 95, 94 ou 95% des électeurs inscrits avaient voté. Et le réflexe des gens à l'étranger, c'est de dire « Ah, le vote est obligatoire chez vous ». Non, non. Les gens participent. Mais c'est pas ces scores-là qu'on a depuis quelques élections maintenant, là. Ça baisse, là.
Ben oui, ça baisse. Je te dis qu'on est loin de 1976 où on avait atteint des 80% déjà dans une élection générale. Et dernières élections, c'était très bas, 66,45. Moi, je me souviens de 2008 aussi, une élection déprimante, l'élection des deux mains sur le volant là de Jean Charest, 57,43, il y avait presque aucun intérêt. Alors, espérons, là, ça avait remonté en 2012, mais ça a diminué après, 2014-71, puis comme je le disais tout à l'heure, 2018-66.
J'ai l'impression que ça va monter un peu quand même. Pourquoi? J'ai l'impression parce qu'il y a quand même plusieurs choix. D'abord, bon, la CAQ, le problème, c'est que si la CAQ n'a pas trouvé de bonnes raisons nécessairement pour faire sortir le vote, mais il y en a déjà pas mal qui a été fait pour le vote par anticipation. Hein. Tu sais, François Legault, c'est le seul qui a voté par anticipation. Justement, ça faisait partie de leur stratégie pour dire tous ceux et celles qu'on est capable de mettre dans la banque, mettons-le pendant la période d'anticipation. Et là, on est capable de concentrer nos efforts, nos appels au vote dans les circonscriptions les plus chaudes. Donc là, ils ont une machine qui est un peu plus forte qu'à la dernière élection. Mmh. Il y a des options sur la table qui sont fortes, qui sont importantes, qui sont différentes, qui sont pour lesquelles il y a quand même des messages clairs. Tu sais, si t'es Québec solidaire, tu peux envoyer le message à tes électeurs. Il faut absolument aller voter. Ne prenez rien pour acquis. Il y a moyen que les choses changent. Même chose au Parti conservateur. Les libéraux ont quand même vu la CAQ pendant 4 ans. Ils ont des options dans le parti, des partis anglophones. Donc, comme ils ont plus de choix, il y a fort probablement plus de possibilités que les gens aient voté. Mais de là,
ça prend une grande motivation pour aller voter. Puis nos hauts taux de participation date d'une époque où il y avait une question existentielle en jeu. Est-ce qu'on reste au Canada ou on en sort? Et c'est pour ça qu'au
gouvernement,
évidemment, le référendum étant le meilleur exemple en 95 où il y avait vraiment l'enjeu là de la souveraineté du Québec.
L'enjeu est élevé, mais on dit Philippe Vincent, tu disais ouais, mais là on sait qui va gagner. C'est vrai, quand on regarde les sondages, ça semble assez évident, mais il y a personne qui vote pour le Québec au grand complet, là. Il y a quand même, je sais pas, Antoine doit le savoir, là, au moins 15 à 20 comtés où j'ai aucune idée qui va l'emporter. Là. Il y a des luttes presque au fil d'arrivée.
Ben, en fait,
dans
c'est
la
ça
Beauce,
qui est le fun.
Dans Montréal, il y en a quelques-uns. Là. Je pense à Maurice Richard, à Verdun, à je mélange toujours pas Notre-Dame-de-Grâce, mais à côté de Verdun, c'est Henri-Sainte-Anne. Où là, il va y avoir des mobilisations gigantesques dans ces coins-là, j'imagine. Là.
Mais faut juste que, est-ce que ça va fonctionner? C'est ça la question. Mais c'est vrai qu'il y a plein de circonscriptions clés, il y a plein de luttes à surveiller, il y a des chefs. T'sais, ça se peut que ce soir, on ferme la télé puis qu'il y ait 5 des chefs qui soient à l'Assemblée nationale, comme ça se peut qu'il y en ait juste 2. Là. Ça reste que ça fait partie des possibilités. Et donc, c'est intéressant pour ça. C'est intéressant parce que les électeurs ont leur mot à dire. Puis les électeurs ont aussi un mot à dire économique. Là. T'sais, si vous allez voter dans une circonscription là, qui est 100% CAQ, là, mais que vous voulez voter, je sais pas, pour Québec solidaire ou pour le PQ ou peu importe, ben sachez que votre vote, ça vaut quand même un peu d'argent pour ce parti-là. Donc, c'est pas inutile d'aller voter. C'est pour ça qu'on encourage tout le monde à y aller, oui, mais les partis aussi ont intérêt à s'assurer que tout le monde ait voté. T'sais, quand Éric Duhaime passe du temps à Pointe-Claire, c'est pas parce qu'il pense qu'il va avoir un député à Pointe-Claire. Mais il sait qu'il va avoir des votes là, puis il sait qu'il va être capable de bâtir un coffre électoral pour la prochaine bataille.
Pour un parti qui aime pas les subventions, on va te dire, il court pas mal après.
Est-ce que ce serait la première fois qu'on aurait...
mais moi, je trouve que le fait que le Parti conservateur ait réussi à s'imposer comme ça, à se normaliser, entrer dans le système partisan... Ça démontre que les craintes, lorsqu'on a modifié les règles de financement des partis politiques, étaient peut-être pas tout à fait fondées. La crainte était la suivante, c'est que ceux qui étaient déjà en place, au moment où on changeait les règles, c'est-à-dire où finalement on passait d'un financement populaire à un financement étatique des partis, ben on se disait, c'est tellement difficile d'arriver dans le jeu de faire sa place.
Antoine, c'est-à-dire que si tu as déjà des députés, tu as déjà du financement,
quand tu pars
à zéro. Là.
C'est ça. Alors, le Parti conservateur a démontré que quand on est motivé, tout ça, on peut se donner d'abord une phase de financement populaire pour ensuite profiter du financement étatique. Mais une fois qu'on a du financement étatique, on disparaît plus peut-être. Je sais pas, je vois le Parti vert, par exemple, qui a un chef qui est un candidat en série, là, Alex Tirel est toujours candidat à quelque part. Est-ce que ça devient pour lui une façon de vivre, un mode de vie?
Mais peut-être que c'est comme chez Tim Hortons, là, après tant de campagnes, il y en a une gratuite. Mais c'est peut-être l'idée de se méfier.
Ça devrait plus être comme du café, je te dirais, chez Tim Hortons, il faut le changer une fois de temps en temps pour que ça goûte bon.
Mais...
Oh.
Ça,
mais tu sais, dans le financement...
Quand le barista s'engueule avec son conseil d'administration puis est capable de le virer quand il veut. Hein?
Mais sur
toucher les deniers de l'État que les électeurs ont donné en exerçant
leur
vote.
Mais sur le financement, moi, je me méfie toujours d'un système qui ne serait que du financement populaire. Il y en a qui disent ça, c'est-à-dire l'État met pas d'argent là-dedans. C'est les gens qui croient à leur parti qui y mettent un peu d'argent. Mais je me méfie tout autant d'un financement qui ne serait que étatique. Parce que là, tu peux avoir des partis qui deviennent paresseux, détachés de la réalité, puis qui deviennent presque des assistés politiques. Là.
Et je crois que ça a un effet sur le type de campagne qu'on a eu, Guillaume. Tu sais, on a eu une campagne où il y a eu peu de mobilisation. À part le Parti conservateur, il n'y a pas vraiment eu de rassemblement massif. Là, il y en a eu peut-être un à la fin au Parti québécois. Mais quand il y avait le financement populaire... qui était plein de défauts, hein, et on l'a vu avec le Parti libéral, même le Parti québécois, le financement sectoriel, tout ça, si tu finances mon parti, tu vas voir quand on va être au pouvoir, on va t'aider. Bon, c'est sûr que c'est terrible, sauf que je trouve que ça faisait des partis plus vivants. Parce que quand on a un but, bon, ramasser des sous, puis par la bande, ben on discute des idées, puis ça faisait des partis plus vivants.
Oui,
là,
il faut
aujourd'hui.
Être branché, ne serait-ce que d'abord sur ses membres. Quand tes membres décident de te laisser tomber, faut.
Exactement. Moi, je veux juste faire mon bémol ici parce que j'ai couvert la scène fédérale où le financement public, donc des gens, est beaucoup plus important. La limite est comme autour de 1500. Ça donne aussi beaucoup de partis qui misent sur des enjeux divisifs, puis des enjeux qui polarisent. Ça donne des partis qui vont envoyer des courriels pour dire « Regardez les méchants médias, nous attaquent. S'il vous plaît, donnez-nous de l'argent pour nous défendre. Ça donne ce genre de courriel et de campagne de financement aussi. Donc, c'est pas juste très beau, là. C'est oui, il y a des rassemblements et c'est tant mieux. Mais il y a aussi ça. Si tu veux craquer des militants, il faut que t'es frustré.
Ouais, mais je parle aussi de la vie des partis.
Oui, non, mais
t'as raison. La vie des partis. Et c'est très important. On a tendance à pas accorder d'attention à ces débats-là au sein des partis. Les débats sont rendus mal vus parce que, évidemment, dès qu'il y a quelqu'un qui fait un peu dissidence, bon, c'est mal vu. Mais c'est important, là, pour les politiques publiques, puis la qualité des politiques publiques, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des définitions de politique qui soient le plus élaborées possible. Et c'est sûr que quand il y a pas de membres, ben il y a pas de débat.
Mais moi, je suis d'accord avec cette idée générale-là, là. C'est-à-dire que si tu es détaché de la population ou que tu lèves plus d'enthousiasme dans ton propre parti, faut que ça fasse mal. Il faut qu'il y ait un incitatif à vouloir faire ça. D'ailleurs, pour jeter un pavé dans la mare, peut-être que 100 $ par année maximum, c'est juste pas assez parce que c'est pas à la hauteur de ce que ça coûte d'abord pour pouvoir opérer. Il y a de l'inflation partout. Alors ça, je pense qu'on a été à trop vouloir être plus catholique que le pape. Tu finis avec les indulgences, là.
Oui, mais en même temps, regarde des partis comme le Parti libéral qui a négligé sa base militante, qui a pas vraiment eu de course à la chefferie, qui a pas passé de temps avec son monde. Ils sont en train de décoper en Moses, là. Ça aurait pu être des chèques à 200$. Si t'as le même financement populaire, il aurait pas fait grand-chose de plus.
Mais aujourd'hui, c'est eux qui payent.
Mais là, les autres en auraient aussi plus profité, là. Mais il y a une marge. Je pense que de passer de 3000 à 100, exagéré. Probablement qu'en mettant un peu plus d'argent, ça va être intéressant.
Bon, c'est aux partis politiques d'attirer le monde aussi chez eux puis de leur expliquer pourquoi c'est important. Puis c'est aussi au monde de s'impliquer dans les partis politiques. T'sais, ceux qui aujourd'hui disent on va y voter mais c'est fini, ben l'exercice démocratique, c'est plus que ça quand même.
Justement, moi, je voulais aborder ce sujet-là. T'sais, pourquoi les gens vont moins voter? Moi, je pense qu'il y a un effet des médias sociaux. Je pense qu'il y a un effet du numérique où on est chacun dans nos niches. Et la politique devient une niche comme une autre. Et ça c'est dramatique. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont complètement déconnectés de la conversation citoyenne qui devrait être centrale, qui est celle des élections actuellement. Il y a des gens, là, c'est épouvantable, ils connaissent rien de ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'ils vont pas voter. Ils disent souvent. Et
d'ailleurs, quand on se dit, est-ce qu'une campagne électorale, ça sert encore à quelque chose? Bon, nous, on suit ça, là, presque de manière, soit professionnelle dans votre cas ou maladive dans le mien. Mais il y a l'idée de dire, vous avez un groupe de soutien, hein, c'est ça. Mais
Guillaume.
Il y a des gens, qui s'intéressent pas à ça nécessairement. Puis là, la campagne, c'est le moment où le débat, il y a plus beaucoup de grands messes dans nos sociétés, hein. Antoine, tu le disais. Chacun écoute sa série ou autre. Je pense toujours à Yvon Deschamps qui disait c'est tout seul qu'on est le plus nombreux. Le fait de ne plus avoir de moments collectifs. Hein, ce fut l'Église le dimanche. Ensuite, ce fut les beaux dimanches ou le téléjournal ou les filles de Caleb. Il y a plus de moments où on vit tous la même chose en même temps.
Les médias de masse avaient leurs défauts, mais il y avait leur grande qualité aussi.
Qui était le rendez-vous de tous. Tout le monde avait lu le même article.
De faire nation. Tu sais, à un moment donné, la nation éclate avec les médias tels qu'on les a aujourd'hui. Évidemment, ça irait mieux si tout le monde écoutait Cube Radio, par exemple.
Ben voilà, c'est dit. Bon, vous deux, là, juste avant qu'on se quitte, dites-moi juste, là, qu'est-ce que je surveille ce soir, là? Donnez-moi, là, votre top 5 des comtés à surveiller, là. Où est-ce que ça va, selon vous, là, avoir notre intérêt le plus aiguisé ou ce qui va être le plus parlant.
Antoine, t'es jamais capable. Hein,
je vais laisser PVF.
Ok,
faire son top 5.
Pour les classiques, là, c'est Saint-Henri-Sainte-Anne parce que c'est Dominique Anglade. C'est Bourget, Camille Lorrain pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis après ça, c'est Chauveau pour Éric Duhem. Mais sinon, là, il y a un des deux boss où les conservateurs risquent de gagner ce soir. Sherbrooke, est-ce que la CAQ va être capable de battre Québec solidaire dans cette circonscription-là? Hull, est-ce que c'est la fin ou presque des libéraux en Outaouais? Puis comme Marie-Victorin, là. Si le PQ cause des surprises, ça va peut-être être là aussi. On dirait que c'est comme ma circonscription barbe à papa. On sait jamais, là, mais pas de temps en temps, c'est bon à regarder.
Surveillez quant à moi. Maurice Richard on sick. Il y a une guerre vraiment, là. Ça va se faire au photo finish entre Québec solidaire et la coalition Avenir Québec. Ça va être vraiment intéressant. Antoine Robitaille.
Oui.
Animateur chez nous. Ah ben non, excuse-moi Antoine, je ne sais pas demander les tiens. Vas-y.
Je vais entendre Antoine, je vais être plus attentif.
Vas-y, Antoine.
Je veux juste vous dire, que se passe-t-il s'il y a égalité dans les groupes aspirant à former l'opposition officielle?
Ben oui, on écoute un extrait de mon entrevue avec Patrick Taillon.
J'ai une entrevue avec Patrick Taillon à La Haut sur la colline tout à l'heure, que vous allez pouvoir écouter en entier. Il y a toutes sortes de nuances. Mais écoutons le principal, l'argument principal.
Le premier indice qui viendrait en tête pour trancher la question, ce serait de ils ont le même nombre de sièges, les partis d'opposition. Allons voir qui a eu le plus de votes. C'est ce qui serait le plus logique.
Ah oui.
C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à la dernière élection.
Oui.
Le Parti québécois avait 10 sièges, Québec solidaire en avait 10 également, et Québec solidaire s'est rangé à l'argument il avait eu, je crois que Québec solidaire avait eu 16,1% des votes et le Parti québécois un peu plus de 17%.
Donc, c'était la lutte pour le deuxième parti d'opposition. Le PQ avait gagné, mais après ça, ils ont perdu Catherine Fournier. Donc, ils ont perdu une partie de leur pourcentage et ils ont été rétrogradés au rang de troisième opposition. Mais l'argument, là, était fort. Le nombre de votes, ça devrait jouer beaucoup, donc, dans la détermination de l'opposition, du parti qui va former l'opposition.
D'abord le nombre de sièges, ensuite le nombre de votes. Alors,
voilà.
Ça remet de l'argument puis du poids à chacun des votes. Alors, Antoine Robitaille, Philippe-Vincent Foisy, merci beaucoup.
Merci,
Guillaume. À demain.
Au plaisir.